Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse de côté du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, nous parlerons de la médecine de la footballeuse et donc aussi de la médecine de la sportive plus généralement. Ce podcast complète un podcast précédent qui traitait de la médecine du football avec comme invité Yacine Zerghini et que je vous engage à écouter si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous avons comme invité le docteur de l'équipe première du MHSC, le club montpelliérain, le docteur Claude Niles. Bonjour docteur.
Bonjour, merci pour l'invitation.
J'ai la chance d'animer ce podcast avec Camille Cordouan. Salut Camille.
Salut Alex, bonjour docteur.
Bonjour. Bien, parfait, on peut commencer. Je te laisse la parole Camille.
Oui, alors au programme aujourd'hui, effectivement, donc la médecine ou la santé et la footballeuse, bon, ce qui n'exclut pas de parler quand même de temps à autre peut-être des footballeurs, parce que ça peut être intéressant, et puis des sportives de manière un peu plus large, donc ça veut dire qu'on va passer par, on va aborder par exemple la question de la poitrine, la question des règles, les footballeuses et les règles, un certain nombre de choses intéressantes mais également footballeuse et Covid, ce qui est quand même une des grandes actualités, et en fait finalement un petit peu la médecine à tous les âges de la vie de la footballeuse. Donc un bon programme.
Exact, c'est parti. Donc on a lu que certains sports ont été déclarés par l'Académie de médecine comme particulièrement à risque, les sports par exemple dits à silhouette ou d'apparence, la gymnastique, la danse, patinage artistique, ça concerne aussi d'autres sports comme le tennis, les courses de fond et les sports à catégorie de poids. Et en conséquence, est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise en charge spécifique pour le football comme ça peut l'être pour ces sports?
Alors, moi je vous donne l'exemple de l'équipe pro ici à Montpellier, c'est sûr que normalement, toutes les filles sont pesées une fois par semaine avec également prise de leur masse grasse. Donc, ceci, bien évidemment, dans le but tout simple d'avoir comme objectif que c'est des sportifs professionnels de haut niveau. Et c'est vrai que la forme physique, donc le poids, est très important à quand même être surveillé afin qu'elles soient dans leur poids de forme optimale, en permanence. Donc, bien sûr, il faut toujours différencier le sportif pro du sportif du dimanche ou des jeunes filles qui commencent le sport. On n'est pas du tout sur la même, sur les mêmes exigences. Donc, quand je regarde, nous, au club, on a aussi des catégories jeunes. Et c'est sûr que chez les jeunes, c'est des choses, on est beaucoup moins regardant dessus. Les petites U15, par exemple, c'est pas du tout une thématique qu'on aborde avec elles, quoi. Donc,
Et comment vous abordez donc cette partie-là quand même, puisque c'est sans doute moins prioritaire par rapport à d'autres aspects de leur formation, mais est-ce que la partie médicale est quand même prise en compte, puisque ce sont des corps d'enfants ou d'adolescents, et donc si on veut les plus prometteuses en tout cas d'entre elles, et même les autres, si on ne veut pas les briser complètement, c'est j'imagine quelque chose que vous devez avoir en tête, et donc comment vous le prenez en compte?
Alors, nous au club, on prend ça en compte à partir d'une certaine catégorie d'âge, où effectivement on se projette vers une vraie formation de footballeur ou de footballeuse en l'occurrence. Et c'est vrai que quand même, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un nutritionniste qui travaille au club et qui effectivement à ce moment-là est toujours à l'écoute des défis et fait aussi beaucoup d'éducation avec les joueuses. Notamment avec comment s'alimenter, sur quoi faire attention, sans parler forcément de poids en général. Parce que c'est vrai que c'est toujours comme, par exemple, dans d'autres sports, comme la gymnastique ou la danse, où on tombe quand même très rapidement aussi dans des excès de surveillance de poids. Donc, on essaie effectivement sur une ligne de les amener à une alimentation saine et adaptée à leur niveau d'exigence, quoi. Donc, et ça, je trouve ici au club, ça fonctionne plutôt très bien. Donc on enlève, notamment pour les jeunes, toute la pression. Il y a zéro pression qui est mise. Et voilà, après, sur les joueuses professionnelles, malheureusement, on est beaucoup plus regardant. Et des fois, effectivement, quand il faut mettre, on va dire, un tour de vis, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a du dérapage dans les deux sens, à la fois sur des pertes de poids excessifs ou sur des prises de poids, on est quand même hyper vigilant là-dessus, quoi. Donc,
Et ça, ils comprennent bien le lien entre leur poids et ce que ça implique sur leur santé ou sur leur performance. C'est assez clair pour elles le lien, ou comment vous faites pour le leur expliquer ?
Alors, c'est vrai que pour les jeunes, effectivement, on leur explique toujours ce qu'on appelle chez la femme, notamment la triade, c'est-à-dire la performance, règles et alimentation. C'est-à-dire que les trois, il faut qu'ils aillent ensemble. C'est-à-dire pour être performant sur un terrain, forcément, il faut s'alimenter. Pour être simple, il faut mettre l'essence dans le moteur, parce que sinon, il ne fonctionne pas. Et effectivement, les règles, parce qu'on va les aborder plus tard, c'est aussi pour nous un très bon indicateur à surveiller. Parce qu'on sait que si effectivement on a du dérapage, c'est un ensemble de tout. Donc effectivement, on essaie dans la pédagogie et dans l'éducation de leur apporter de l'aide au mieux qu'on peut.
Et du coup, je pense que c'est peut-être une bonne transition vers les règles. Parce que je me souviens d'un numéro de l'Équipe Magazine qui doit peut-être dater d'il y a, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, c'était vraiment le gros titre, c'était les règles, un tabou dans le sport féminin. Donc bon, peut-être que c'était un petit peu provoquant, enfin bon, pour essayer de faire un peu vendre. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ce qu'on comprend en tout cas de plus en plus, c'est que ça semble un terrain d'exploration pour bien comprendre le rythme de la sportive et en particulier de la joueuse. Et donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu quelle est votre manière d'aborder les choses concernant les règles, comment vous les prenez en compte? Comment vous inspirez aussi peut-être de choses qui sont faites ailleurs? J'ai un peu en tête l'équipe américaine de football, parce qu'on en a un peu parlé au moment de la Coupe du Monde. Mais voilà, comment aujourd'hui ce point est pris en compte dans votre suivi des footballeuses, les règles?
Alors, l'exemple des Américaines, il est très intéressant, parce que c'est vrai que les Américaines, ils avaient poussé la surveillance on va dire à l'extrême, parce qu'effectivement ils avaient utilisé du coup à fond le calendrier des règles des filles afin de mettre toujours entre guillemets le 11 de départ le plus, on va dire, le plus performant sur le terrain. C'est vrai que ceci était bien sûr du fait qu'effectivement ils avaient un effectif assez large pour pouvoir se le permettre. Après, chez nous, dans l'équipe professionnelle, c'est une thématique qui est abordée de manière assez ouverte. On va dire tous les parties du staff sont briefés, c'est-à-dire à la fois la partie médicale bien sûr, mais surtout aussi le staff technique et les joueuses. Et donc on a quand même une manière d'en parler qui est très ouverte, c'est-à-dire que par exemple si une joueuse a ses règles, on les encourage fortement à nous le signaler, notamment si on sait qu'elle les tolère mal en termes de douleur, en termes de fatigue, en termes de performance sur le terrain. Et notamment sur les matchs, on n'hésite pas du tout, au niveau des entraînements, pardon, on n'hésite pas du tout à adapter sa séance par rapport à ses sensations. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, encore ce matin, on en a une de nos joueuses, elle a eu ses règles dans la nuit, avec des fortes douleurs du bas-ventre. Bah forcément, aujourd'hui, elle ne s'est pas entraînée, mais il n'y avait aucune discussion. Elle nous a envoyé un message, et dès son arrivée, c'était clair et net que aujourd'hui, on va aménager, elle ne s'entraîne pas, etc. Et donc, comme ça, on a à peu près une vision sur nos filles, qui les tolère bien, qui ne les tolère pas bien, qui prend systématiquement, par exemple, un anti-inflammatoire, notamment l'Antadis, et comment on peut les gérer. C'est sûr, comme les Américaines l'ont fait avec les matchs, c'est autre chose, parce que c'est vrai qu'au niveau de la compétition, au niveau des matchs, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué à ce moment-là à dire aujourd'hui tu vas pas jouer parce que tu as tes règles. Donc sur les matchs, c'est encore un peu plus compliqué. Mais le sujet est abordé de manière très ouverte quand même avec tout le monde au club.
Mais en regardant un petit peu justement ce que les Américaines ont fait, bon alors il y a notamment leur une personne là qui est citée, une chercheuse qui est citée parce qu'elle semble avoir eu un rôle très important dans cette connaissance là, donc s'appelle Georgie Brunvels. Bon. Et donc elle indique que en première partie de cycle, le type de blessure peut être, je crois que c'est surtout lié au ligament ou peut-être des blessures plutôt du genou. En deuxième partie de cycle, il faut faire attention à d'autres types de blessures. Donc ça aussi, enfin vous aussi, vous êtes, j'imagine, au fait là-dessus. Et comment vous le gérez en fait ? Parce que chaque cycle est différent aussi.
Bien sûr. Alors pour le moment, on n'a pas encore choisi de pousser la surveillance jusqu'à là, parce que c'est vrai que ça demande quand même toujours beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'effectivement, le côté qu'il ne faut pas négliger, c'est sûr qu'il y a des joueuses, il y a des femmes qui ne sont pas vraiment gênées par leur phase dans le cycle. Qui nous disent, moi, peu importe dans quelle phase je suis toujours, au top de ma forme. Mais effectivement, normalement, on trace quand même à peu près la date de leurs règles, à peu près. Mais pour le moment, on n'a pas quand même adapté une adaptation complète de chaque joueuse par phase de cycle. Pour moi, on n'a pas poussé encore jusque-là. On va peut-être essayer de le faire, mais ça demande aussi beaucoup de surveillance et avec le staff technique, etc. Et beaucoup d'organisation des séances d'entraînement. Pour le moment, on n'a pas encore eu la capacité à pousser jusque-là.
Et est-ce qu'il y a une demande des joueuses peut-être de davantage le prendre en considération, et même est-ce qu'il y a certaines joueuses qui vous disent, docteur, voilà, je préfère prendre un traitement hormonal pour suspendre les règles, ou est-ce que ça se produit, ce genre de demande?
Oui, j'ai eu, là ça fait qu'une seule année que je suis là, mais effectivement on a déjà eu une fois une demande là sur une jeune joueuse qui nous a posé la question. Qui effectivement a souhaité un traitement hormonal parce qu'effectivement elle était gênée par à la fois les douleurs mais également l'abondance de ses règles et qui entraînait bien sûr à ce moment-là beaucoup de fatigue et également, je ne vais pas dire jusqu'à l'anémie, mais effectivement en perte de fer, etc. Donc elle nous a explicitement demandé d'avoir un traitement hormonal pour régler entre guillemets son cycle. Oui. Ça, on l'a eu.
Est-ce que ça peut avoir des conséquences ensuite hormonales quand elle sera hormonale et autres d'ailleurs hein, quand elle va évoluer, avancer en âge, donc vieillir du coup, et donc est-ce que c'est quelque chose où vous dites ok, on commence un traitement hormonal maintenant, mais on sait que il faut avoir une surveillance sur un temps bien plus long. Parce que ce à quoi je l'expose, bon, je sais que c'est pas anodin, c'est contre le rythme naturel d'une certaine façon.
Bien sûr.
Ouais.
Après, moi pour le moment, comme je dis, c'est la première année que je suis là, et pour le moment, entre guillemets, ce type de décision, pour le moment, je les laisse quand même aux gynécologues avec qui on travaille, qui effectivement à ce moment-là, effectivement, donnent toutes les explications aux femmes ou aux filles. Pour effectivement faire une surveillance habituelle comme elle est actuellement souhaitée ou demandée par le ministère de la Santé. Donc voilà, donc, en tout cas pour le moment, le suivi est fait dans les règles de l'art pour effectivement, bien sûr, ne pas mettre à risque la santé des joueuses. Ça, c'est en premier lieu, c'est toujours la santé des joueuses qui est en priorité.
Ben c'est bien, peut-être qu'on peut passer, Alex, vers une des spécificités des joueuses, qui est leur poitrine, puisque bon, c'est moins rare c'est plus rare chez les hommes. Donc peut-être que foot et poitrine, comment ça se conjugue?
Aujourd'hui, une femme sur cinq délaisse le sport à cause de sa poitrine, donc c'est un vrai enjeu pour le coup. C'est ce que rappelait la journaliste Christelle Bonnet dans un papier publié dans l'équipe MAG il y a quelques semaines, où elle entrevoyait la poitrine des sportives en général. Donc elle donnait l'exemple de Violette Maurice qui avait fait une mastectomie bilatérale pour pouvoir conduire sa moto. Simona Halep, qui avait aussi été passée par la réduction mammaire pour pouvoir devenir numéro 1 et je sais pas si ça, ça se pas suffit, mais en tout cas, elle est devenue numéro 1. Et donc, qui donnait aussi le contre-exemple de Serena Williams, mais qui est intéressant, qui avec son 100E, à chaque sein, qui pèse environ 910 grammes. Alors, tu m'as aussi donné l'exemple des Amazones qui coupent un sein pour mieux tirer à l'arc. Donc, c'est vrai que c'est, finalement, c'est quelque chose qui vient de loin. Elle donnait aussi l'exemple d'Antoinette Nanajimou qui expliquait que même quand c'est petit, ça bouge et ça gêne. Donc, vous, docteur, est-ce que c'est une question qui revient chez vous? Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est une vraie question chez les filles?
Alors, pour l'équipe pro, j'ai pas été confronté à cette question par rapport aux joueuses. C'est vrai que la majorité des joueuses, quand même, portent des brassières spécifiques pour effectivement avoir un maintien, une protection certaine des seins. Après, je sais que chez les équipes jeunes, notamment chez les génopes, chez nos tout petites, la coach, l'entraîneuse, leur fait quand même un travail spécifique sur notamment le contrôle de la poitrine pour effectivement leur expliquer comment contrôler un ballon de la poitrine pour justement éviter de se blesser un maximum. Donc ce côté-là, d'après ce que j'ai vu avec elle, et entre guillemets, expliquer aux jeunes, et également aussi le fait de devoir quand même porter une brassière pour effectivement être plus dans le confort pour pouvoir jouer. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas été confronté à une problématique où une joueuse est venue me voir en me disant bah, je suis très gêné, je ne peux pas jouer, je ne peux pas atteindre mon niveau. Donc pour le moment, je n'ai pas eu de demande dans ce sens.
D'accord, c'est intéressant. Bon, là, on voit encore une fois de plus que Montpellier est en avance sur d'autres clubs, parce que dans le même article, l'ex-internationale Jessica O'Hara expliquait qu'on lui avait appris à faire un contrôle comme on l'apprend aux garçons, alors que la bonne méthode, si j'ose dire, la façon dont il faudrait l'enseigner, c'est qu'on doit prendre le ballon, c'est ce qu'elle explique, assez haut, pour ne pas se faire mal au sein. Et donc, elle regrettait justement qu'aucun coach ne lui ait jamais dit « fais comme ça pour protéger ta poitrine ». Justement, la protection de la poitrine, c'est aussi quelque chose qui pose question. Et on a, il y a quelques années, dit que les chocs pouvaient entraîner des cancers. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est avéré ou c'est complètement faux?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de preuves à ce sujet qui avaient été amenées. C'est ma connaissance. Après, je peux me tromper.
C'est aussi ce que disait l'article.
J'ai pas trouvé d'article qui allait à l'encontre de ce qui était écrit dans l'article. Encore une fois, après, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je pense que le fait qu'on a une femme en tant que coach pour les jeunes, peut-être que ça avantage aussi la formation. Je pense. C'est peut-être aussi le point où peut-être que quand vous avez un entraîneur masculin, peut-être que lui, il y pense peut-être pas suffisamment qu'une coach, comme c'est le cas chez nous, une coach féminine chez les jeunes, qui peut-être à ce moment-là a plus le réflexe à leur dire mais contrôlez plus haut pour vous protéger mieux. C'est peut-être une explication.
D'accord.
Et je me souviens juste, ouais, parenthèse, j'avais discuté avec le coach de Soyaux, qui donc, l'ancien coach, Sébastien Joseph, et quand je lui demandais, mais comment vous prenez en compte le fait d'avoir des femmes en face de vous, il m'avait dit, c'est pas forcément évident, parce que bon, moi je suis un homme, et que finalement le rythme biologique masculin, et bon, j'imagine qu'il y en a un aussi, est assez différent du rythme biologique féminin. Et que donc, à prendre en considération, c'était un apprentissage pour lui aussi. Donc c'est pour faire un peu écho à ce que vous dites, docteur. Je pense que le fait d'avoir, j'imagine que le fait d'avoir des coachs masculins, c'est aussi un apprentissage et une découverte pour eux dans la gestion d'un groupe féminin.
Ouais, je pense tout à fait. Je pense tout à fait que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Après peut-être aussi à nous en tant que médecins ou peut-être aussi les kinés de peut-être avoir son mot à dire aussi en disant attention vous êtes toujours à faire à des filles ou à des femmes pour effectivement mieux les protéger. qui rentre bien dans notre rôle de prévention aussi.
Il y a une autre rumeur ou légende qui dit que le sport intensif empêcherait à tout jamais l'avènement de la poitrine ou réduirait sa taille future. Alors, est-ce que ça, c'est vrai ?
Dans le développement global, alors, bien sûr, chez quelqu'un qui est adulte, le sport de haut niveau, forcément, vous brûlez beaucoup de graisse. Donc, forcément, la taille des seins diminue fortement. Après, sur l'évolution globale, je suis pas gynécologue, donc je vais pas trop m'avancer dessus pour ne pas dire de bêtises, on va dire comme ça. Mais en tout cas, pas à ma connaissance, en tout cas.
C'est aussi dans ce sens que c'est cet article. Donc justement, c'est vrai que on peut faire peut-être une petite aparté sur la poitrine de la sportive. Donc, comme vous l'avez dit, docteur, c'est 90% de graisse, la poitrine. Et donc, les sportifs, par définition, bien, cette graisse, elle va être brûlée. Et donc, la poitrine, elle sera souvent plus petite et plus plaquée sur le pec. Mmh. Et donc, elle sera différente. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, que des footballeuses américaines comme Sydney Leroux ou Alex Morgan sont passées par la prothèse mammaire pour pouvoir justement garder une poitrine qui soit féminine ou alors au moins féminine à leurs yeux. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose, je suppose, que vous n'avez pas rencontré.
Non, en tout cas, nous, au club, on n'en a pas rencontré de cela. Mais bon, après, ça rentre aussi un peu dans notre société actuelle où beaucoup... avec les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, où il y a beaucoup de regard d'extérieur qui est amené aussi. Et donc forcément, le regard d'autrui peut aussi peut-être aussi avoir une certaine influence sur le choix de certaines sportives.
Évidemment, oui, évidemment. Donc, oui.
Puisqu'il arrive des États-Unis, enfin, ce qui se fait aux États-Unis arrive, on a l'impression, un peu toujours un jour ou l'autre en Europe. Donc peut-être que...
C'est possible.
Oui, puis les joueuses elles-mêmes venant. Enfin, Alex Morgan joue en Angleterre maintenant, donc c'est vrai que ça favorise l'échange de pratiques, ça discute, ça... Voilà, donc ça devrait peut-être arriver aussi.
C'est une possibilité. En tout cas, là, pour moi, je n'ai pas été confronté à cette question.
Parfait. Ben, Camille, moi, je vais te rendre le témoin pour la maternité, si tu veux bien.
Oui, voilà, on parlait d'Alex Morgan. Je pense que c'est une bonne transition.
Exactement.
Alors, la maternité dans le sport de haut niveau, en général, mais peut-être plus encore dans le football, et peut-être plus encore dans le football en France, football féminin, ça semble être un sujet tabou, j'aime pas trop ce mot puisqu'on le met beaucoup, à beaucoup de sauce, mais en tout cas un sujet qui n'est pas forcément abordé ou facilement abordé par les joueuses, et elles perçoivent ça... certaines en tout cas comme une impossibilité, une incompatibilité entre mener une carrière de haut niveau, ce qui est extrêmement exigeant, et faire une pause pour avoir un enfant. Donc vous, voilà, quel est un peu votre regard là-dessus, puisque c'est ce qu'on perçoit nous de l'extérieur, mais à votre sens, comment les filles à Montpellier, mais peut-être pas forcément qu'à Montpellier, se positionnent par rapport à ça, et puis vous, en tant aussi que médecin, là-dessus, comment vous vous positionnez, quels conseils vous donneriez à des joueuses qui ont ce projet ou qui sont elles-mêmes enceintes.
C'est sûr, c'est un sujet complexe. C'est vrai que parce que la femme, elle est limitée aussi dans son âge à laquelle elle peut, entre guillemets, avoir une grossesse. C'est vrai que souvent, c'est à peu près l'âge où, effectivement, on est en une carrière sportive de haut niveau, quoi. C'est sûr, en discutant avec certaines de nos joueuses, et il y en a certaines qui nous disent clairement que qu'elles veulent avoir une carrière jusqu'à la trentaine, début de la trentaine, puis arrêter pour effectivement à ce moment-là passer entre guillemets à autre chose et planifier une vie de famille secondairement. Pour le moment, je n'ai pas été confronté directement à une demande d'une joueuse de vouloir entre guillemets tomber enceinte entre guillemets pendant sa carrière. Alors, la raison pour laquelle je ne sais pas, je pense que c'est aussi une question où peut-être qu'elles osent pas par rapport à l'employeur. Mais en tout cas, j'ai pas été confronté à la question directement pour avoir un projet de grossesse pendant leur carrière active. Mais effectivement, on a des joueuses, en tout cas dans des échanges que j'ai eu avec les joueuses, elles m'ont clairement dit, bah, pour eux, leur carrière se limite à les 30, 31 ans, et puis vie de famille derrière. Quoi. Donc ça, je l'ai eu. Quoi.
Oui, c'est un peu le paradigme en France, en tout cas, où c'est vraiment l'idée à leurs yeux, en tout cas, d'une incompatibilité. Mais vous, en tant que médecin, est-ce que vous pourriez leur dire, mais franchement, ça se voit et ça se fait ailleurs, c'est possible. On adapte l'entraînement, un peu comme pour les règles finalement, donc on adapte l'entraînement jusqu'à un certain mois de la grossesse, et ensuite, quand tu accouches, tu reviens, de nouveau on adapte, ça prend le temps que ça prend, est-ce que vous seriez prêt, vous seriez prêt si les conditions étaient réunies?
Je pense que, moi de mon côté, oui, parce que je veux dire, faut quand même rappeler que entraîner le sport pendant la grossesse n'est pas du tout contre-indiqué, il est même fortement conseillé. Après, je pense que le côté où beaucoup de joueuses ont la crainte, c'est effectivement comme elles sont pas en CDI en quelque sorte, et donc peut-être que c'est effectivement leur durée de contrat qui les limite dans leur choix. Je pense que c'est ça. Si maintenant elle signe deux ans, elle va pas dire à l'employeur au bout d'un an, ben maintenant je tombe enceinte et je vais pas jouer la deuxième année. Donc je pense que ce facteur-là, il doit pas mal jouer dans leur réflexion, je pense.
Oui, c'est sans doute. C'est vrai qu'il y a quand même une forme de précarité de la part de, enfin pour ces joueuses, parce que en tout cas pour la blessure, je pense que c'est quand même mieux géré, mais pour la grossesse, ce qui est aussi une absence, il n'y a pas, c'est un CDD, donc se dit effectivement si mon contrat est rompu ou si je suis entre deux contrats, je ne suis pas finalement couverte, j'ai pas de revenus, effectivement, je pense qu'il y a une crainte aussi qui est liée à l'environnement ou à l'insécurité sociale dans laquelle elle serait plongée.
Alors après, moi je sais, moi j'étais pas encore médecin au club, mais je sais qu'il y a quelques années en arrière, je sais qu'il y avait une joueuse étrangère qui avait signé à Montpellier, qui elle était jeune maman. En tout cas, c'est un des directeurs généraux qui m'a raconté l'anecdote. Effectivement, la joueuse, elle venait avec son petit à l'entraînement. Et même en match, des fois en déplacement, la petite était dans le bus, elle faisait des déplacements avec l'équipe. Et ce côté-là était bien accepté. Mais encore une fois, tout en sachant que la joueuse a été signée entre guillemets après la grossesse, une fois qu'elle était revenue à son niveau. Donc c'est une très bonne question. Je pense que si j'aurais le temps un de ces quatre, je pense que je poserais une fois la question aussi à la direction, au directeur général, quel serait également pour lui son approche à cette question. Parce que je pense que c'est pas que une question médicale. Je veux dire, au niveau médical, la grossesse, c'est quelque chose de très naturel. En théorie, vous n'avez pas besoin d'un médecin pour gérer une grossesse en quelque sorte. Sauf si bien sûr il y a des complications. C'est pas, mais je pense que c'est le côté économique et carrière qui peut-être bloque pour les joueuses, où elles ont peur des répercussions, de peut-être plus avoir la possibilité de revenir à leur niveau d'antan et peut-être perdre leur emploi.
Oui, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est ce qu'on on voit certains pays qui sont, certaines sélections en tout cas, qui sont plus, je dirais pas plus ouvertes, mais en tout cas ça semble dans les mœurs, et je pense souvent aux sélections d'Europe du Nord, Norvège ou Islande. Et puis, je pense aussi aux États-Unis, où on a le cas de joueuses qui ont été championnes du monde, notamment, je pense, à l'équipe de 2015, Amy Rodriguez notamment, avec en étant mère de un voire deux enfants. Et donc il y a toute une partie garde d'enfants qu'il faut gérer aussi, parce que c'est vrai que le football est un sport de déplacement, pas que sur le terrain, mais aussi en général. Et les sélections étaient, enfin ça c'était Sonia Bonpastor qui a un petit peu joué aux États-Unis, disait bon, le fait que les familles soient là, que les enfants puissent être aussi puissent voir leur mère, était assez acceptée en fait aux États-Unis. Elle semblait, enfin c'est des propos qui remontent maintenant à quelques années, mais elle semblait regretter qu'en France la position, les esprits soient un peu moins avancés sur le sujet. Parce qu'effectivement, il y a le médical et tout l'extra médical, quoi.
Oui, je pense que c'est une approche de chaque pays. Vous avez bien cité le côté des pays nordiques, où effectivement, on a une approche qui est complètement différente avec la grossesse. Ou en France, je pense qu'en France, il y a aussi une forme de carrière professionnelle qui est très importante pour beaucoup de femmes. Et où effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes en France, peut-être plus que dans d'autres pays, qui mettent peut-être en avant leur carrière professionnelle dans un premier temps, avant de penser au côté famille et avoir des enfants. Après, comme une joueuse avec laquelle j'ai discuté qui m'a dit, bah, moi à 31, 32 ans d'avoir un enfant, ça me gêne pas, j'ai fait 12 ou 13 ans de foot professionnel avant. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même une tournée de société où les femmes, hors sportifs, ont les enfants de plus en plus tard, à cause des études, à cause de peut-être aussi du travail. Et peut-être que ce côté-là joue un peu plus qu'en France que dans d'autres pays. C'est une possibilité aussi, je pense.
Oui, sans doute. Et c'est vrai que les exemples récents qu'on a, en fait, de footballeuses... Parce qu'on s'est un peu renseigné avec Alex lors d'un précédent podcast qu'on a fait sur football et féminin et maternité, donc également fort intéressant, avec Corinne Petit et Margot Dumont. Et en fait, Corinne Petit, ex-joueuse de Lyon, donc qui a raccroché les crampons et qui a pris sa retraite et donc a fait un enfant à la retraite, je souris moi-même en disant faire un enfant à la retraite, bon, parce que pour une sportive c'est effectivement très jeune, mais voilà. Et donc cet exemple-là où on a des joueuses comme Jessica Ouara qui elle a été blessée et finalement a eu du mal à revenir ensuite, et donc s'est dit bon ben voilà, je raccroche les crampons et je fais un enfant. Et la seule joueuse en D1, Arkema, donc aujourd'hui, qui a deux enfants, elle s'appelle Charlotte Fernandez et je crois qu'elle joue à Fleury, si je ne dis pas de bêtises. Mais elle, c'est un peu un cas spécifique. Elle a eu ses deux enfants extrêmement jeunes et en fait, avant d'être en D1, avant d'avoir finalement sa carrière. Donc, c'est, je dirais, deux extrêmes. Et c'est vrai qu'au milieu, y a pas grand monde, quoi.
Ouais, je pense qu'effectivement, pour moi, il y a le vide qui sur ce sujet-là, où effectivement, je pense que peut-être beaucoup de filles n'osent. Pour eux, c'est pas une priorité, et qui mettent effectivement leur carrière en priorité en se disant, à 32, 33 ans, je peux avoir un enfant en toute sécurité, voilà. Après avoir profité à fond de ma vie professionnelle de footballeuse, parce qu'après, il faut pas non plus négliger que, ça peut aussi amener un peu sur le sujet suivant, mais, sur certaines joueuses, les salaires commencent quand même aussi à monter progressivement sur les salaires conséquents. Bien sûr, on est encore loin des salaires des garçons, mais on a quand même des joueuses en France qui gagnent plutôt bien leur vie, et peut-être c'est aussi ce côté-là où beaucoup de joueuses se disent pourquoi pas faire quelques années avec un salaire plus que correct afin après pouvoir une retraite sportive, mais également aussi une sécurité financière pour leurs enfants.
Oui, tout à fait. C'est un calcul, c'est une planification de vie en fait, hein, entre le travail, les aspects personnels, de famille, de gestion du patrimoine post-carrière, oui, pour celles qui qui ont pu avoir un salaire assez relativement élevé quand même. Alors moi je me demandais aussi, peut-être pour finir sur cette question de la grossesse, de la maternité, la question de l'allaitement. Est-ce que le fait d'allaiter c'est un risque ou pas? Est-ce que c'est conseillé pour une joueuse? Est-ce que voilà, je me posais cette question.
Alors moi la réponse que j'ai là-dessus, c'est que moi j'ai vu que dans certains articles ils disent que c'est pas à risque, mais j'ai quand même le souvenir dans mes études. Quand m'a quand même, alors c'est un gynécologue qui m'a dit ça, de ne pas trop allaiter, ou en dérivé, de ne pas reprendre trop d'activités sportives trop tôt si on allaite. Parce que par rapport au côté hormonal, on a les tissus conjonctifs, ou voire les ligaments ou autres, qui sont encore plus souples pendant l'allaitement que hors allaitement par rapport à des modifications hormonales. Donc, là, quand je regarde par exemple ma femme qui, j'imagine un petit qui a maintenant un an et demi, et c'est vrai que la gynéco et la sage-femme a dit à ma femme, bah, tant que vous allaitez, faites attention à votre reprise sportive, de ne pas y aller trop fort. Donc c'est la question où j'ai trouvé un peu les deux sons de cloche, quoi. Effectivement, certains disent non, on peut y aller, et d'autres ils disent attention quand même, notamment au niveau du périnée, a priori, ça peut avoir des conséquences si on allaite, et on fait du sport intensif, quoi. Donc j'ai, là, dans ma préparation de l'interview, j'ai pas réussi à trouver un consensus clair et net sur cette question, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu embêté.
Les doutes, c'est aussi une réponse. Ouais. Le doute, c'est aussi une réponse. Et quant à la qualité du, parce qu'il y avait aussi la question de la qualité du lait. Et, voilà, et est-ce que finalement le lait de la maman très sportive, est-ce qu'il était suffisant pour le bébé? Est-ce que là, vous avez peut-être une réponse, ou est-ce que tu as peut-être une réponse?
Je pense que. Notamment, je pense que les femmes, de toute façon, quand elles allaitent, elles ont une augmentation de toute façon de leurs besoins alimentaires. Et je pense pas qu'il y aura trop de soucis sur ça. Le côté qui, je pense, qui peut être plus compliqué, c'est par contre d'essayer de garder le rythme d'allaitement. Parce que c'est quand même au début assez régulier. Ou bien sûr, on peut aussi tirer le lait. Mais ça demande toujours beaucoup d'anticipation, beaucoup de planification. Donc voilà. Mais normalement, si on l'alimentation suit, je pense pas qu'il y ait un trop grand impact sur la qualité et la quantité du lait, quoi. Donc.
Parfait. Camille, on en a fini avec la maternité, ou tu as encore une question peut-être?
Non, moi sur la, je pense que là on en a bien parlé. Ce que je retiens quand même, c'est que vous écoutez, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre et à découvrir quelque part sur le fonctionnement du corps de la femme et de la sportive, en fait, et la manière dont se croisent certains événements de sa vie, comme une grossesse ou une chose plus régulière comme les règles. Donc je trouve que c'est pour un médecin, j'imagine que c'est aussi passionnant de se dire qu'il y a, il y a beaucoup de choses encore à découvrir, à comprendre et à mettre en place, sans doute aussi.
Bien sûr. Mais là, par exemple, c'est quelque chose que je me suis remémorisé quand j'ai préparé un peu le podcast. Un sujet qui n'était pas forcément annoté dans la thématique, là, mais qui est un sujet quand même assez tabou aussi, c'est l'incontinence, c'est chez le sportif, ou chez la sportive professionnelle. J'ai un ami à moi qui avait fait une thèse là-dessus, un travail de mémoire là-dessus, et c'était assez intéressant de découvrir que le taux d'incontinence chez la femme sportive est quand même assez élevé, et que, alors que la rééducation elle-même, elle est très simple, et qu'effectivement, c'est un sujet pas encore trop abordé par dans les différents clubs. Donc voilà, c'est quelque chose, une petite parenthèse que j'aimerais bien ajouter, parce que je pense que c'est important à l'amener peut-être à d'autres sports ou à tous les sports féminins, de ne pas passer à côté de ça.
Oui, non, mais tout à fait, mais est-ce que c'est par manque de connaissances, ou c'est par honte de la joueuse aussi, je sais pas, qui ne le dit pas, quoi.
Alors, je pense que c'est un mix des deux. Alors, je me souviens du travail de mémoire qu'un ami à moi avait fait là-dessus, notamment, et il avait posé également la question, une question c'était anonyme, et effectivement, les deux côtés sont un peu sortis. C'est-à-dire à la fois le côté elle ne savait pas mieux, parce que souvent ça arrive sous la douche après les phares, et le côté aussi où elles étaient un peu gênées, elles n'avaient pas trop envie d'en parler. Donc, un sujet en tout cas assez délicat à l'abord avec une majorité des sportifs au cours de ce mémoire. Mais par contre, une grosse acceptation sur les solutions proposées, avec une rééducation pérenniale, entre guillemets, très simple à appliquer.
D'accord. Mais non, mais c'est intéressant, et puis intéressant aussi de voir que peut-être progressivement, des sujets qui sont de l'ordre de l'intime, quand même, peut-être sont abordés de manière plus horizontale, enfin plus simple.
Plus libre.
Oui, plus libre, voilà. Tout à fait. Et oui, ben non, mais vas-y, Alex.
Demain, justement, c'est intéressant. C'est moi, j'ai une question sur le staff médical. Alors, qui compose le staff médical à Montpellier ? Et est-ce que vous avez des intervenants extérieurs ? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du gynécologue. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants réguliers ?
C'est vrai que le staff médical au sein du club, il est assez large. C'est-à-dire au total, on est.
Donc Montpellier est un club exemplaire, on peut le dire. Ouais. Sur ce point, vraiment, comme pour beaucoup de choses, sur ces questions-là, Montpellier, c'est un club qui en avance. Donc oui, assez large, excuse-moi.
C'est vrai qu'on a, nous, chez les filles, moi en tant que médecin, on a une kiné à temps plein, une kiné femme à temps plein. On a un ostéopathe qui passe, qui est intervenant extérieur, mais qui passe régulièrement au club. On a un podologue qui également travaille avec nous. Et après, on a toute notre cellule de la clinique avec laquelle on travaille, où on a le côté radiologie, le côté chirurgie. Donc non, c'est très vaste. Et c'est pas moi qui ai fait tout ce travail. Je veux dire, c'est aussi mes prédécesseurs. Notamment le docteur Raymondi, qui est le vieux médecin du club, qui est au club depuis 25-30 ans, qui lui, dans son travail, a mis tout ça en place, et qui fait qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça compte pas que pour la cellule féminine, mais ça compte pour tout le club, à la fois pro garçon, à la fois centre de formation, où on a quand même un entourage médical autour qui est très vaste, qui est très ficelé, et qui fonctionne bien. Donc voilà, avec vraiment les cardiologues avec qui on travaille en étroite collaboration et tout. Donc
justement, dans le même ordre d'idée, quand une fille elle est souffrante, quelle que soit d'ailleurs la cause, est-ce que toi, le médecin référent, elle appelle tout de suite le médecin du club, et après le médecin du club, il va venir la voir, ou il va la réorienter vers un spécialiste peut-être? Comment est-ce que ça se passe de façon très concrète quand il y a une question? Quand il y a une douleur.
Ouais, tu as déjà tout dit en quelque sorte. C'est vrai que moi, entre guillemets, c'est que je suis pas que le médecin du sport des joueuses. Je suis pour certaines aussi le médecin, entre guillemets, médecin de famille. Et c'est vrai qu'après, je prends mon rôle de médecin généraliste à ce moment-là et on coordonne tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, soit c'est moi qui amène la solution, si c'est entre guillemets un problème de santé qui va un peu plus loin. Après, c'est une réorientation vers le spécialiste à ce moment-là qui lui, il s'occupe de l'encadrement. Donc, c'est vrai que c'est un rôle, mon rôle à moi au sein du club, il va au-delà du simple médecin de sport, qui est également le médecin généraliste, qui, quand la fille elle est malade, qu'elle a une angine, par exemple, qui gère à ce moment-là la prise en charge de tout ça.
D'accord. Comment se passe la communication avec les filles? Parce que justement, elles sont pas toutes francophones, et on sait que finalement, expliquer une douleur ou la décrire, c'est jamais simple, même quand c'est dans sa langue natale. Alors quand on a travaillé avec des Scandinaves, avec des Australiennes ou des Autrichiennes, comment est-ce que ça se passe?
Alors là, peut-être que pour moi, c'est un peu particulier, parce que comme tu me l'as dit, comme tu le sais, moi, je suis luxembourgeois. Et c'est vrai que moi, je parle quatre langues couramment. Donc, moi, je peux changer du français à l'allemand, à l'anglais, en une phrase sans me poser la question. Donc c'est vrai que du coup, effectivement, quand il s'agit de questions médicales, je préfère prendre une langue dans laquelle la joueuse en face de moi est le plus à l'aise. Avec les Allemandes, je leur parle en allemand. Avec les Suédoises, bon, on prend l'anglais parce que c'est vrai que l'anglais pour eux c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est le côté entre guillemets une langue est très important et communication est très importante parce que une joueuse qui est souffrante, si l'interlocuteur en face ne la met pas à l'aise et elle peut pas s'exprimer librement, c'est sûr que c'est problématique. Mais c'est vrai pour tous les joueurs en fait. Donc c'est aussi un avantage que j'ai de maîtriser beaucoup de langues pour effectivement mettre nos joueuses étrangères qui sont quand même très nombreuses à l'aise, et je pense que ça m'aide également dans le relationnel avec elles.
Justement, tu as des joueuses qui viennent de partout, et est-ce que toi tu as observé finalement que le rapport au staff médical il est différent chez les filles chez les Scandinaves ou chez les filles qui viennent d'Autriche ou d'Allemagne que le rapport que toi tu peux avec les Françaises, ou finalement une sportive c'est une sportive, une femme c'est une femme, et finalement les rapports ils sont assez proches et c'est plus de l'ordre du caractère et de
Non, effectivement, on voit quand même clairement des différences d'un pays à l'autre. C'est vrai que c'est dans d'autres pays, en fait, en fin de compte, le rôle du médecin de club, il est peut-être un peu différent. Et c'est sûr, ces petites différences, on les retrouve. Ils ont d'autres habitudes. Donc, je ne veux pas dire qu'au début, il y a toujours une méfiance des joueurs étrangères quand elles arrivent. Mais effectivement, il y a un temps d'adaptation quand même. C'est quelque chose qui est vrai également pour d'autres sports, notamment j'ai des amis à moi qui sont médecins dans le rugby, et c'est vrai que quand j'échange avec eux, c'est vrai qu'ils me disent aussi c'est pas toujours facile d'aborder le discours avec un joueur qui vient de l'étranger, qui pour lui a peut-être une autre approche avec le médecin que de ce que nous on nous a appris. C'est aussi une question de comment on a été formé pour aborder ça avec les joueuses. Donc il nous faut un petit temps d'adaptation quand même, où il ne faut pas hésiter aussi à questionner la joueuse en question, de dire mais comment ça se passe chez toi, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe. Et il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter à chaque situation, je pense.
Moi, j'avais encore une petite question qui me vient, c'est qu'on dit souvent que les footballeurs, les footballeuses, elles jouent rarement sans douleur. Comment est-ce qu'on arrive à entretenir un climat de confiance assez important pour arriver à connaître la vérité sur la douleur de la joueuse qui, par définition, elle, a envie de jouer et qui va peut-être essayer de minimiser un peu sa douleur, ou essayer de, pour justement que le doc donne le feu vert à l'entraîneur, si l'entraîneur vient et lui pose la question de l'état de la joueuse.
C'est une question qui est très intéressante. Où je pense qu'après il faut tout simplement différencier plusieurs choses, c'est-à-dire on peut parler de sport, on parle de sport de haut niveau et on parle de sport professionnel. C'est sûr qu'avec un sportif amateur, j'aurais dans certains cas pas du tout la même approche qu'avec un sportif professionnel, où je pense que la majorité des sportifs professionnels, ils ont une approche du risque pour leur santé qui est différente du sportif amateur, où également le médecin qui encadre tout ça doit avoir une approche peut-être un peu différente, tout en bien sûr veillant à l'intégrité physique de la personne. Donc c'est sûr que des fois il faut un petit peu peut-être plus discuter aussi, il faut être beaucoup dans la communication avec le sportif professionnel aussi, ça dépend beaucoup de l'expérience du sportif professionnel également et de chaque caractère qu'on a en face de soi, pour effectivement trouver le juste milieu entre protéger l'athlète afin d'éviter bien sûr une blessure et également les conséquences plus tardives, mais également être dans la capacité à ce que le sportif ou la sportive soit performante sur le terrain pour entre guillemets faire son métier. Donc c'est pas toujours facile, ça demande aussi beaucoup de communication avec les coachs. Parce qu'après ça dépend aussi beaucoup des coachs. Il y a certains coachs qui ont des exigences qui sont différentes différente de d'autres entraîneurs. Et donc, c'est toujours une question, une balance bénéfice-risque où il faut vraiment, faut vraiment être dans l'explicatif et dire à une joueuse, bah là, ta petite douleur que tu as, c'est pas grave, tu peux jouer dessus. Et ouais, c'est pas toujours facile. Oui, mais ça demande beaucoup de travail et de mise en confiance et de confiance mutuelle entre chaque participant, en fait.
D'accord. Maintenant, j'ai une question qui s'adresse plus vraiment au médecin, mais qui s'adresse plutôt, voilà, à celui qui est au contact des joueuses tous les jours. Mon podcast, il est très écouté en Haïti. Et évidemment, en Haïti, on a envie d'avoir des nouvelles de Nerilia, mon désir. Alors, comment va Nerilia? Pas cliniquement, mais dans son intégration au club.
Non, Nerilia, elle va très bien. Elle amène toujours un sourire avec elle quand elle arrive. Et non, franchement, c'est très agréable de travailler avec elle parce que voilà, elle est 100% professionnelle et voilà, c'est une personne qui est fantastique et voilà, elle amène toujours de la bonne humeur dans le vestiaire, donc c'est toujours très agréable de travailler avec elle. Donc,
Et là-dessus, justement, on entend toujours, lorsqu'un transfert est sur le point de se faire, ou on pense qu'il est déjà fait, il y a quand même l'étape incontournable de la visite médicale, et qui peut parfois faire avorter un transfert. On a eu quelques exemples. Donc, quels sont les tests qui sont passés dans cette visite médicale? Qu'est-ce qu'on cherche à détecter? Et dans quelles conditions on peut donner le feu vert?
Alors, la visite médicale chez nous au club, elle est très codifiée. Alors, c'est pas toujours moi qui l'a fait. C'est le docteur Sablerol qui est le responsable de la traumato du club, souvent qui l'est fait. Alors, il y a bien sûr plusieurs choses à regarder dans chaque visite médicale. C'est-à-dire déjà faire le point sur les antécédents du joueur ou de la joueuse en question. Est-ce qu'elle a déjà été blessée? Si elle a déjà été blessée, comment va-t-elle? Ça demande aussi des fois un travail en amont où nous, en tant que médecin, on va chercher un peu des informations à droite, à gauche, avant d'avoir la joueuse ou le joueur en face de nous. On a bien sûr tout un examen clinique bien codifié à faire, un examen clinique global de la personne. Si besoin, on fait des examens complémentaires type IRM, radio, etc. Il y a bien sûr des tests musculaires à faire, au niveau de la force musculaire, etc. Prise de sang obligatoire pour tout joueur qui signe au club, et également visite chez le cardiologue pour éliminer une éventuelle malformation cardiaque ou problème cardiaque qui pourrait effectivement être une contre-indication à une activité sportive de haut niveau. Quoi. Voilà, et effectivement après aussi de la discussion, si bien sûr il y a un souci des fois, le côté discussion avec le coach, avec la direction, est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas ce joueur ou cette joueuse. Mais c'est très codifié, il y a le dentiste passe également là-dedans, l'ophtalmo passe là-dedans, donc c'est très codifié. Chez les filles, c'est vrai que chez les filles, on essaye de se rapprocher des mêmes exigences qu'on a également chez les garçons à côté, et on ne différencie pas du tout pro-homme, pro-femme dans ce domaine-là. Donc,
Et justement, elle peut se faire à distance, hein. Là aussi, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris quand je l'ai appris. Donc, en fait, vous pouvez... Alors, comment ça se passe quand c'est à distance, quand l'athlète n'est pas...
Nous, au club, en général, on n'aime pas. On aime vraiment que la joueuse soit présente. Mais, par exemple, là, pour l'intersaison qu'on a eue, là, avec le Covid, on a été obligé à faire, entre guillemets, des visites médicales initiales. Par téléphone, par visio, où on a demandé des examens complémentaires de la joueuse qui était confinée dans son pays. Bien sûr, secondairement, on a fait une vraie visite médicale quand elle est arrivée, mais c'est vrai que il a fallu s'adapter. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'habituellement, parce que voilà, par téléphone, par vidéo, c'était très intéressant de le faire, de le faire une fois. Mais encore, je préfère avoir quand même la personne en face de moi et faire un vrai examen clinique et pour mieux réagir qu'à distance. Ou à distance, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi.
D'accord. Camille, peut-être, t'as peut-être une question maintenant plus terre-à-terre, enfin terrain-terrain.
Terrain-terrain, quand une joueuse est blessée, par exemple.
Par exemple.
En fait, oui, c'est vrai que qui rentre sur le terrain ? Est-ce que c'est vous ? Qui vient ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que on voit tout un ensemble de personnes arriver, mais comment
qui sont-ils ?
C'est codifié sans doute. Donc, quel est le code ?
Qui sont-ils ? D'où ils viennent ?
Alors, c'est vrai que chez nous au club, c'est codifié. Après, sur les matchs à domicile, moi, je suis présent, donc souvent, je rentre avec la kiné. Après, sur les matchs à l'extérieur, la kiné est toute seule. Je ne fais pas des déplacements avec l'équipe. Donc voilà. Mais après, ça dépend aussi de la situation. Avec la joueuse, quel était le contexte de la faute, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on voit que c'est rien de trop grave, la kiné, elle rentre toute seule. Mais par contre, s'il y a le moindre doute, on rentre à deux. Ouais. Donc, voilà.
D'accord. Avant d'avoir les brancardiers. Mais on voit des pompiers aussi. Donc, est-ce que c'est... oui, sur certains matchs. Mais tu as envie de me dire, tiens, ce sont les pompiers qui assurent.
Ouais, on espère toujours qu'on n'a pas besoin d'eux, quoi. Mais voilà, malheureusement, de temps en temps, c'est un sport de contact, donc malheureusement, de temps en temps, il y a des blessures plus graves qui se passent, et à ce moment-là, il faut de l'aide pour évacuer une joueuse ou un joueur du terrain. Donc malheureusement, ça arrive.
Et peut-être, bon, ça, c'est un peu la question du moment quand même, et je pense que ce serait dommage de pas vous la poser. Le protocole Covid pour les footballeurs ou les footballeuses, puisque bon, enfin, un certain nombre d'entre elles sont touchées, concernées. À Montpellier, on a eu quelques échos aussi. Donc peut-être en quelques mots, nous dire comment vous intégrez cette pandémie qui est quand même très inédite, parce que bon, chaque saison il y a la grippe, ce genre de choses, et les footballs, enfin, c'est un sport d'extérieur, donc j'imagine qu'on est peut-être plus vulnérable, peut-être qu'on attrape peut-être de manière générale plus de virus. Mais là, plus spécifiquement sur le Covid, comment vous intégrez ça ?
Alors c'était, pour être franchement honnête, c'est vrai que quand on a eu le premier confinement au mois de mars, c'est vrai que c'était un vrai casse-tête. Parce qu'on était un peu face à quelque chose d'inconnu. Jusqu'à présent, on entendait tout plein de choses. Malheureusement, nous, on a eu un exemple assez flagrant quand même au club où un de nos joueurs professionnels a fini en réanimation. Bon, il s'en est bien sorti, il rejoue, il va très bien, mais... C'était quand même pour nous un signe assez d'alerte en se disant on n'est pas face à une petite grippette comme certains disaient ça un peu en rigolant. Et c'est vrai que nous, avec la salle médicale, on y a réfléchi en mois de mars pendant un bon petit moment parce que c'était pas sûr si la saison allait être arrêtée ou pas. Et après, c'est vrai que la Ligue et également la Fédé, ils ont quand même mis en place maintenant des protocoles très codifiés en termes de prise en charge, de comment il faut se comporter. Je veux dire, nos filles ont, depuis le début de la préparation, quasiment un test de dépistage par semaine, parce qu'effectivement, on les teste régulièrement, notamment avant les matchs. Pour le moment, je touche du bois. On n'a pas eu de cas depuis cette saison chez les féminines professionnelles. On n'a pas eu de cas, donc je touche fortement du bois que ça reste comme ça. Mais c'est vrai que ça amène aussi un certain stress pour les filles parce que elles savent chaque semaine il y a le test à faire, mais est-ce que je peux être positif ou pas? Parce que le problème auquel on est confronté avec le Covid, c'est que si maintenant vous avez des symptômes et vous êtes malade et vous êtes dans votre lit, c'est clair et net. Vous êtes malade, vous restez chez vous. Mais le problème, c'est que si vous faites un dépistage à quelqu'un qui est positif alors qu'il va très bien comme vous et moi, ça apporte un stress supplémentaire et aussi une complexité dans l'explication à donner aux sportifs en lui disant « là, pendant une semaine, tu restes chez toi et tu ne bouges pas ». Donc, ouais, c'est vrai que c'est une année assez particulière qui est un vrai challenge, je pense, que pour les médecins de tous les clubs de un peu partout. Et ça ne nous facilite pas la vie, donc on va dire comme ça. Et d'ailleurs,
parlons de... Oui, pardon. En termes d'inquiétude aussi sur de santé, d'inconnu sur les conséquences à plus long terme de ce virus. Bon. Et puis peut-être en termes de précarité aussi, puisque je crois qu'il y a une étude de la FIFPro qui est sortie récemment et qui indiquait que le football féminin était quand même avait beaucoup pâti et pâtissait encore de cette pandémie. Donc, je ne sais pas si au sein de Montpellier, il y a eu des appréhensions là-dessus, sur est-ce que nos contrats vont être maintenus, comment ça se passe, parce que c'est aussi cet aspect-là de la pandémie, quoi.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est le côté, on va dire, plus économique de la pandémie qui a fortement inquiété un peu tout le monde. Je veux dire, c'est pas qu'à Montpellier que c'était le cas. C'est aussi parce qu'il faut quand même toujours garder en tête qu'au jour d'aujourd'hui encore, le foot féminin, entre guillemets, pour beaucoup de clubs, ça n'apporte pas d'argent, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent que le club investit dans le côté féminin, mais pour effectivement que ça existe, mais c'est pas comme le foot masculin où effectivement avec les droits de télé, les sponsoring, qu'on rentre dans les frais en quelque sorte. Donc c'est vrai que pour des on va dire des plus petits clubs, c'est sûr que c'était un vrai casse-tête. Là pour nous, c'est sûr qu'au niveau financier, il fallait aussi un peu serrer la ceinture, tout en rassurant néanmoins les joueuses que la continuité de leur salaire est garantie et il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Mais je pense que dans pas mal d'autres clubs, je pense que le comptable du club, il passe des mauvaises nuits quand même, je pense. Ça doit vraiment être assez compliqué à gérer quand on connaît la dimension entre guillemets économique dans le foot féminin qui reste quand même très précaire. Donc,
oui, c'est sûr qu'on n'aimerait pas être le comptable du club, ça c'est ça. Et peut-être, oui, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais j'aurais un dernier point qui amènera peut-être d'autres points aussi. Mais on a parlé de la joueuse quand elle est jeune, quand elle est dans sa carrière, quand elle est enceinte et quand elle a un enfant. Et il y a aussi une question sur la joueuse qui vieillit, entre guillemets, donc la joueuse après sa carrière. Je me demandais si le vieillissement d'une joueuse et d'un joueur était similaire. Est-ce que les problématiques sont les mêmes ou pas? Quel suivi est effectué? Est-ce que vous pourriez nous
raconter? Est-ce que le football, ça casse aussi, parce que parfois on a l'impression qu'il y a des joueurs qui à la fin de leur carrière, ils expliquent, je me suis arrêté parce que je voulais encore pouvoir marcher sans boiter. Je sais que si je m'arrête pas maintenant, je pourrais plus jamais courir ou faire, je pourrais plus jouer au foot, je pourrais plus faire de tennis.
Malheureusement, c'est comme j'avais expliqué pour la gestion des douleurs. C'est vrai que le sport professionnel à très haut niveau. On est très loin du sport santé qu'on conseille à faire à monsieur tout le monde. Et c'est vrai que malheureusement, certains joueurs ou joueuses, c'est vrai qu'en fin de carrière, leur corps a clairement des stigmates de leur carrière. Où effectivement, le sport à très haut niveau, le sport professionnel, laisse clairement des traces. Et qui, effectivement, sur certains domaines, notamment osseux, effectivement, peut des fois conduire à des conséquences plus précoces que chez monsieur tout le monde qui fait son sport du dimanche, qui est en bonne santé. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et où effectivement, je pense qu'il faut essayer d'encadrer ces anciens sportifs tant bien que mal, pour qu'ils s'adaptent, entre guillemets, à leur vie un peu plus sédentaire, même si la majorité garde quand même une activité physique importante à côté. Donc, mais il faut toujours être quand même clair et net, il ne faut pas, malheureusement, se voiler la face, c'est que le sport professionnel de haut niveau, malheureusement, fait des dégâts, peut faire des dégâts à long terme.
Parfait, bon, on ne va pas rester évidemment sur ça. J'avais moi une question, et là, c'est une question qui est... là, je vois la vérité, là. C'est la question qui dérange, c'est le tabou ultime. Alors, le spray magique, son secret, qu'est-ce que c'est ?
Oui, on le veut tous.
Hein, on le veut. Docteur, là, il faut y passer, là. Vous êtes fermé.
Non, mais pour que le spray reste magique, il faut que ça reste secret. Sinon, il perd sa magie.
Mais on est d'accord, ça marche. Le spray magique, il marche.
Mais bien sûr. D'accord.
On n'a pas réussi à trouver la composition sur Google. On a tapé Google de formule spray magique, mais bon, voilà.
Non, mais on va se faire mal à la cheville dans le club, là, et on va demander au doc de nous coller un petit coup de spray magique. On va regarder ça. On va le goûter.
Il faut le tester, tester nous-mêmes.
Exactement. Donc, avant de conclure, moi, je voudrais juste faire une ouverture. Donc, il y a une question qu'on n'a pas abordée parce que je souhaiterais l'aborder dans un prochain podcast au début de l'année 2021. Enfin, deux questions d'ailleurs qui vont être abordées dans deux podcasts différents. C'est toutes les questions de dépression et du mal-être du sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est des questions qui sont vraiment de plus en plus centrales. Et aussi la question du genre. Donc ça, si ça vous intéresse, on l'abordera en 2021, c'est promis. Avant de nous quitter, j'avais une question pour vous, coach. Donc, je suis aussi beaucoup... c'est la question coach, justement, pour vous, docteur. Je suis suivi par pas mal de coachs, d'entraîneurs. Et finalement, le doc, quel conseil il pourrait donner au coach ? Dans la relation coach-doc, quel est le conseil que vous pouvez donner, voilà, tout simplement, au coach ?
Le conseil primordial, c'est la communication. Voilà. Je pense qu'il faut être très simple pour que une équipe, un staff autour d'une équipe fonctionne. Il faut communiquer. Il faut parler, il faut se parler ouvertement. Il faut savoir critiquer l'un, il faut savoir encaisser de la critique. Il faut savoir aussi dire quand quelque chose fonctionne très bien. Mais pour moi, la communication, c'est primordial. Voilà. Si on ne communique pas entre nous, ça ne peut pas marcher.
D'accord, parfait. Est-ce que tu as une dernière question peut-être pour le doc, Camille ? Camille ?
Non, je suis toujours là, oui. Non, mais je pense que c'était super intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est toujours des sujets qu'on a envie d'aborder, de creuser encore, qui évoluent très, très vite. Donc, voilà, un grand merci pour tout ce que vous avez pu nous dire, nous expliquer.
Un grand merci. Merci docteur. Avant de conclure, moi je voudrais faire un hommage à Loulou Nicolin. Alors pas à Louis Nicolin, non, à Loulou, parce que Louis, l'entrepreneur, il se serait sans doute pas lancé comme ça dans le foot féminin. Parce que comme tu l'as dit fort bien, mais à part, il n'y a pas grand chose à gagner à part la satisfaction, voilà, de voir de belles équipes. Et aussi faire un hommage particulier à Bruno Martini qui a œuvré à Montpellier, qui a œuvré chez les garçons, on le sait évidemment, mais qui a aussi œuvré beaucoup avec les gardiennes, chez les féminines. Et donc voilà, l'expression de Bruno Martini, moi, m'a beaucoup affecté. Et donc voilà, on pense à eux et on les remercie encore. Merci aussi à vous, docteur, évidemment. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez poser des questions ou suivre l'actualité de Camille Cordouan sur un commercial sur Twitter. À commercial, c'est Cordouan, C-C-O-R-D-O-U-A-N. Suivez aussi Food Del, pour lequel elle collabore. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, à rebondir sur le podcast. Il est mou, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter, à commercial, monsieur foot de foot, M-R-F-O-O-T-D-E-F-O-O-T. Merci au Camp Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont dispo sur toutes les plateformes. Dont Apple Podcast, faites la recherche, abonnez-vous pour ne louper aucun des podcasts. Merci à tous nos auditeurs, c'est toujours un plaisir d'être écouté, d'avoir des retours. Et enfin, pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Camille ?
Et moi, ben voilà, ça devient sans doute une habitude maintenant, une pensée pour Jean.
Parfait, ben merci encore docteur, merci Camille, à bientôt.
Merci Alex, merci docteur.
Merci à vous.